appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Dieu de merde.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à toutes, vous êtes bien sur Radio Canu.
Plutôt.
Comme tous les lundis soirs, oui, bonsoir. Donc c'est Radio Canu, 102.2 MHz, si vous êtes là, c'est sans doute pas par hasard, c'est la plus rebelle des radios, et ce soir c'est Cannabis Circus qui va nous parler de chambre, des brèves, de ce qui se passe un petit peu dans le monde, des trucs dont on vous a déjà parlé, donc des petites suites de trois événements. On va revenir sur les amendes et sur tout ce qui... Le ministre de la Justice, Belloubet, elle commence à...
Belloubet,
oui, elle commence à raconter un petit peu plus ce qu'elle va mettre, donc on va, ouais. On va revenir là-dessus, sur l'amende de 105 minorés, 600 augmentés. Voilà, et puis on verra Ben Bassa qui critique un petit peu tout ce dispositif.
On n'en attendait pas moins d'elle.
Ah, voilà,
mais c'est... bon, vu que c'est la seule, ou quasiment...
Ensuite, on verra quelques petites études sur le cannabis et le foie. Cannabis, alcool et foie. Donc, deux, trois...
C'est pas piqué des vers, ça. Hein.
Deux, trois petites études qui sont faites là-dessus aussi. Un petit communiqué de presse du cirque où on reviendra sur le cannabis au volant.
Oui, la campagne d'information qui sévit un peu partout sur les écrans pendant les coupures publicitaires.
Et qui dit un peu n'importe quoi, ce qui est énervant.
Dans la droite ligne des campagnes classiques
de désinformation.
De désinformation. On reviendra dessus. Alors, pas tout dire maintenant.
Et enfin, Mediapart qui parle du trafic qui est de la réembauche. Une enquête à Marseille, elle porterait de trois jeunes. Voilà.
Plutôt intéressant.
Plutôt intéressant, assez
carrément long, intéressant, voilà. Je trouve. Donc on va essayer de traiter tout ça. Et il y avait un autre article de Mediapart que je n'ai pas mis parce qu'il fallait regarder le procès. En l'occurrence, c'était le procès de la prohibition organisé par Mediapart, avec dans le rôle du défenseur de la prohibition Rachida Dati. Voilà, donc si ça vous intéresse, en tout cas, on vous le dit à peu près tous les lundis, et encore une fois, on va vous le redire, le Cirque a un canal audiovisuel qui s'appelle Cirque TV, que vous pouvez trouver très facilement en allant sur YouTube, et dans la barre de recherche, vous écrivez Cirque TV, ou alors vous pointez sur le site internet du Cirque Lyon, et vous cliquez sur le petit logo Cirque TV. Et sur Cirque TV, il y a plein d'infos, des documentaires, des reportages, il y a même des émissions radiophoniques, alors vous n'avez pas l'image, mais il y a quand même le son. Et donc, sur Cirque TV, vous trouverez également le fameux procès de la prohibition tel qu'il a été mis en place par Mediapart. Il y a plein d'intervenants qui ont participé à ce procès. C'est hyper intéressant. Voilà. Et je suis même étonné. Franchement, ça m'arrivera peut-être une seule fois dans ma vie, c'est ce soir. Mais on peut remercier Rachida Dati quand même d'être venue participer à ce procès, à ce tribunal de la prohibition. Elle a quand même accepté de se prêter à ce jeu-là. Je dois dire que je suis quand même étonné. Mais en tout cas, voilà, elle l'a fait, et visiblement, alors c'est pas elle en son nom propre, mais elle en a quand même un peu pris plein la figure, d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc on va pas en parler plus, hein, je viens de vous l'expliquer, voilà, donc Cirque TV, voilà.
Voilà, et avant de mettre un petit peu de musique, on va faire une brève ou deux, peut-être.
Allez, une brève ou deux.
Dont une qui vient du Républicain Lorrain, donc trafic de cannabis à Villerupte, un éducateur, un mécano et un basketteur handisport à la barre.
Alors, on a choisi cet article, encore une fois, pour vous relater les imbécilités proférées par les magistrats. Parce que là, franchement, on atteint le haut du panier, quoi. Je crois que... Enfin, on a eu pire, hein, mais là, on n'est pas loin, quand même. Je te laisse, vas-y.
Alors, eux, ils étaient à la barre, quoi. C'est un truc de trafic de cannabis qui est à Villerupt. Mais en fait, ils ont fait deux séances, l'une avec les trafiquants et l'une avec les usagers. Et donc là, à la barre, c'était les usagers qui plus est étaient éducateurs. Alors là, c'est.
Il y en a un qui était éducateur.
Un qui était éducateur, voilà. Alors là, il y a un hiatus. La présidence.
La présidente, oui.
La présidence, l'autre, il est mécano, donc l'appareil, la présidente dit comment vous pouvez réparer une voiture quand vous planez à 15 000.
Bah ouais, enfin même plus que ça, elle lui dit quand même, voilà, lui il dit, il fume un joint par soir, voilà. Et là, alors là, c'est assez hallucinant quand même, aujourd'hui en 2018 hein, quand même, c'est la vice-procureure qui lui dit qu'il fume un joint par soir, c'est vraiment pas grand-chose. Et elle lui dit comme ça, mais alors du coup, en fait, vous êtes tout le temps camé. Il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'il fume un joint par soir. C'est-à-dire que le matin, il est encore complètement défoncé, selon la vice-présidente, la vice-procureure. Et en plus, elle rajoute, et si demain, votre fille est tuée par un chauffard drogué, quelle sera votre réaction ? Voilà, donc quand on lit ça, on se dit, c'est pas vrai, on est en 1614 ou en 1625, enfin, je sais pas. Mais non, on est en 2018. Donc il y a aussi le cas d'un basketteur handisport qui évoluait au niveau national et qui anime également des actions de sensibilisation autour de ce sport, donc le basket handisport et du handicap. Il intervient donc dans des établissements scolaires. Et là, pareil, on lui dit, mais là non plus, monsieur, le cannabis n'est pas très compatible avec ce que vous faites. Voilà ce que lui dit la présidente. Et ensuite, un autre habitant du pays haut, hein, un père de famille lui aussi, et là, on lui dit comme ça, bah alors comment réagirez-vous quand vous verrez votre fille avec un joint dans le bec ? Et donc, l'individu, sans doute un peu désemparé, réagit et répond, je serai impassible, je veux dire intraitable. Elle a un petit peu peur de moi, elle m'écoutera, mais je lui dirai que j'ai fumé moi aussi avec les conséquences que ça peut avoir sur la vie. Voilà, donc plaidoirie des avocats, les plaidoiries ont quand même permis d'atténuer des peines qui semblaient devoir être assez fortes. Donc ils ont quand même écopé de 600 euros d'amende. Le parquet voulait la prison avec sursis, hein, ce qui est quand même... énorme, hein, surtout pour quelqu'un qui reconnaît avoir fumé un joint le soir, ce qui est quand même vraiment pas grand-chose. Et enfin, pour terminer cet article, les propos du basketteur qui dit cette chose absolument incroyable, mais en même temps, bon, dans une cour de justice, vu qu'ils se sont fait taper dessus par les magistrats. Donc le basketteur dit « Le cannabis m'a fait perdre beaucoup de choses. » Ah, on sait pas quoi. En tout cas, c'est pas l'usage de ses jambes, hein, parce que ça, on sait bien que le cannabis ne rend pas handicapé. Mais bon, voilà, je pense que le contexte, il fallut que ce monsieur fasse amende honorable. Donc voilà, il a fini par dire le cannabis m'a fait perdre beaucoup de choses.
En fait, quand je vois ça, je me dis 300 euros, une amende à 250 ou 300 euros, c'est pas pire. Hein, mais bon. Vu ouais. Comme ça, c'est pas pire la contraventionnalisation.
Voilà. Mais bon, en tout
c'est
cas,
quand même absurde.
En tout cas, avec un procès comme ça, on a vraiment l'impression d'être en pleine chasse aux sorcières, quoi, avec des magistrats qui débloquent complètement, qui racontent n'importe quoi, qui sont complètement ignorants de ce qu'est le cannabis et de sa consommation et des effets que ça peut provoquer. Parce que vraiment, si on fume un joint par jour et qu'on est complètement camé, et tout le temps camé, parce qu'on fume. Enfin, c'est absolument lamentable. Et donc pour illustrer un peu cette médiocrité hexagonale, j'ai mis en parallèle un autre article, alors là qui est complètement l'opposé. C'est un article qui nous vient de Vanity Fair, donc un journal qui est quand même assez peu habitué à traiter des histoires de sociétés, notamment de cannabis. Et là donc dans Vanity Fair, on a choisi cet article puisque c'est une très courte interview de Cynthia Nixon. Qui est une actrice américaine. Alors, pour celles et ceux qui connaissent Cynthia Nixon, il faut savoir qu'elle interprète le rôle de Miranda dans Sex and the City. Et donc, elle a donné une première interview chez une animatrice la semaine dernière, et visiblement, elle se lance dans la politique. Et elle a dit clairement ceci, elle a dit, voilà, il y a un tel appétit pour des changements progressistes dans l'État de New York, je suis totalement pour la légalisation de la marijuana, essayons de nous accaparer une partie de ses revenus. Voilà. Donc vous voyez un peu l'ambiance qui règne dans les tribunaux français en Moselle, par exemple, et puis ben voilà ce qui se passe un peu aux États-Unis, un peu partout d'ailleurs, hein, et pas uniquement à New York. On est vraiment complètement à l'opposé et en tout cas on regrette une fois de plus et on le dit une fois de plus hein, qu'on regrette cet état de passivité dans notre pays qui est en plus complètement contraire aux libertés individuelles. Voilà. Mais ça, malheureusement, en France, on commence à avoir l'habitude. Quoi.
Par contre, la justice, elle reste pas passive. À Papété, on en a déjà parlé, il y a un gros shop là-bas, le Street Shop, qui vendait des graines. Donc, ils avaient essayé de lui confisquer, ils avaient voulu fermer, ça a été interdit. Il avait été autorisé à ouvrir. Et là, finalement, après plusieurs semaines de polémiques, c'était le clap de fin. La justice a finalement fermé l'établissement. Elle est revenue faire un contrôle et perquisitionner. Ils ont trouvé quand même 2 sticks. Les 3 personnes ont été placées en garde à vue. Le matériel informatique aussi a été confisqué.
Ouh là là.
Et donc, pour l'instant, ils sont uniquement sur le délit d'incitation et de provocation à la consommation de produits stupéfiants, qui est réprimé par le code pénal, assure Mario Banner, qui ajoute « Nous avons effectué beaucoup de recherches pour recueillir le maximum d'éléments matériels qui nous permettent de pouvoir caractériser le délit, qui sera porté à l'appréciation d'une part du parquet et ensuite éventuellement de la juridiction du jugement ». Voilà, à l'issue de la perquisition, le magasin a été fermé et placé sous scellé.
Ouais, il y a encore. Parce qu'ils ont un autre souci, ils avaient apparemment un problème de non-conformité aux règles de l'urbanisme local. Et visiblement, il y a une autre affaire qui s'engage par rapport à ce litige-là. Donc ça n'a rien à voir. Mais voilà, donc en tout cas, ce qu'on peut dire quand même avec Papété et le Tahiti, c'est que bon, là-bas, c'est le pacalolo, et que c'est une plante qui est cultivée ou qui est utilisée de manière ancestrale, et que l'administration française, donc coloniale en fait, vise à punir et à réprimer. Donc voilà, c'est absolument scandaleux, encore une fois. Surtout que jusqu'à présent, il y avait une relative indifférence des autorités. Alors c'est épisodique, ça dépend, ça prend, ça s'arrête, ça repart, mais là jusqu'à présent, les autorités ne se préoccupaient pas trop de ça. Et visiblement, ils se sont mis billes en tête de faire fermer ce magasin et de lutter contre la consommation de pacalolo à Tahiti. Voilà. Musique. Et on parle de cette amende de 300 euros juste après la petite coupure musicale. À tout de suite.
Allez, ce soir, on écoute, on va pas s'embêter, j'ai amené qu'un seul disque. Un disque, puisque c'est une nouveauté, le nouvel album de The X, qui s'appelle 27 Passports. Et on écoute un premier titre qui s'appelle The Urge Conjecture.
Yeah.
Bien, après la musique, maintenant les nouvelles. Donc
les,
on va
les hostilités,
voilà, les mauvaises nouvelles même malheureusement parce que là on
de
va
Bellouet.
Voilà, on va parler donc de notre ministre de la Justice qui visiblement fait aussi pire que les autres avant elle. Alors deux articles ce soir pour nous parler de tout ça, un article du Monde et un article de Public Sénat. Qui donc revient sur ce projet de loi de contraventionnalisation. Et voilà, on en sait un peu plus maintenant sur, sur le montant que la police pourrait nous. Enfin, sur le montant de l'amende que la police pourrait, pourrait infliger aux contrevenants, aux consommateurs de cannabis dans la rue. Donc au départ, on avait parlé de 150, 200, 250 euros. Il semblerait que ce soit plutôt vers 300.
Voilà, c'était, soit c'était une amende forfaitaire de 4e, 5e catégorie, donc plus comme une contravention de, en voiture. Donc voilà, 150, 300 euros, quoi, 150, 200 euros plutôt. Ou c'est ce qu'ils vont mettre en place, c'est une amende forfaitaire délictuelle, et donc ça reste un délit, et donc ça fait 300 euros. Alors 250 en cas de, si elle est forfaitaire minorée, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle soit minorée.
Bonne question, alors justement je voulais te poser la question, parce que là moi je ne comprends rien.
C'est, je l'ai pas défini. Alors ça doit être si tu payes tout de suite voilà. Ou celui d'amende forfaitaire majorée de 600 euros, voilà. Donc ça, c'est si tu ne payes pas et si tu oublies de payer.
Mais donc tout de suite, c'est 250. Pas tout de suite, c'est 300. Ouais. Et si vraiment, pas tout de suite, mais vraiment longtemps après, majoré 600.
Voilà.
D'accord.
Et si pas du tout, et ben là, c'est, comme c'est complémentaire aux peines actuelles, et ben tu es convoqué devant la justice, sans doute. Ou tu, voilà. On te fait payer de toute manière. L'État n'oublie jamais.
Ouais, donc, oui, tu peux être convoqué devant la justice. On peut t'infliger une peine de prison. Et on peut aussi toujours te réclamer le paiement du montant de l'amende.
Voilà, donc il faut rappeler que le consommateur, par la loi de 70, le consommateur de drogue risque toujours un an de prison et 3750 euros d'amende, qui, ça ne sera pas modifié. Donc, ça vient se substituer à toutes les autres réponses pénales déjà existantes. Donc, c'est juste une autre voie procédurale complémentaire à la tête du client. On y vient plus après. Une voie procédurale complémentaire simplifiée et rapide. Face à ce contentieux de masse. Voilà, a rappelé donc Madame Bellouet. Sur les 1400, elle rappelle les chiffres, hein, l'article rappelle les chiffres, 140 000 interpellations chaque année pour consommation de drogue, 3098 peines de prison en 2015, dont 1283 fermes. Donc ça fait quand même 1%, donc ça fait quand même un bon millier de personnes en prison, rien que pour consommation de drogue. Voilà, donc le recours à cette amende donc, pourra être circonscrit par des directives politiques pénales locales à certains types d'usages, en fonction notamment de la nature du stupéfiant saisi, afin d'éviter que les personnes nécessitant vraiment un traitement sanitaire en fassent l'objet. Encore expliqué la ministre de la Justice.
De la com.
Voilà, donc ce qui est intéressant, moi ce que j'ai noté, c'est que c'est selon la nature du genre, donc ça pourra marcher pour tous les stupéfiants.
A priori oui,
voilà.
On sait déjà sur quoi ils se focalisent, hein. Pas besoin d'attendre l'amende forfaitaire. Hein.
Voilà, donc après ça sera le type d'usage et voir comment ça se passe.
Le type d'usage et ce qu'on disait en off, là, la tête du client, la tête du contrevenant quoi. Hein, on est bien d'accord, c'est toujours comme ça que ça se passe, ça va continuer à être comme ça, je pense pas que ça fasse changer ça.
Voilà, puisque ça sera uniquement le policier ou le gendarme qui définira pourquoi il met l'amende, puisque ça pourra aller y compris pour des récidivistes, ce qui n'était pas précisé avant, donc là c'est a priori ce qu'elle a dit, voilà. Voilà, donc on peut rajouter quelque chose, donc ça reste donc, un délit, hein. C'est surtout ça, donc amende de 300 euros tout en restant un délit. On on attaque directement par la critique de...
D'Esther Benbassa, oui, de toute façon...
Qui dénonce un petit peu ce qu'on dit, une pénalisation à deux vitesses. Une grande partie des réponses pénales sont aujourd'hui constituées de simples rappels à la loi qui ne permettent pas de fixer l'interdit en la matière. Ça c'est ce que dit évidemment Nicole Belloubet, qui pour ça qu'elle amène à l'amende forfaitaire délictuelle de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée serait de 250 euros. Et celui de l'amende forfaitaire majorée 600. Voilà, là-dedans, sont exclus les mineurs pour lesquels devront continuer et prévaloir une approche sanitaire et éducative. La possibilité de recourir à l'amende ne se substitue pas au système actuel, mais sera complémentaire. Voilà. Donc, c'est-à-dire, après ça, après avoir payé l'amende ou après avoir été arrêté, la justice pourra toujours vous convoquer par la suite.
Pour vous poursuivre et vous punir pénalement.
Ou pour vous interroger.
Ou pour vous interroger.
Pour vous interroger, puis peut-être pour vous punir, etc.
Ou pour vous punir, ou vous proposer une injonction thérapeutique, ou les trois à la fois, ou éventuellement même vous infliger une peine de prison ferme. Voilà. Et en plus, ils vous prennent de l'argent. Voilà, parce qu'avant, ils ne pouvaient pas vraiment faire. Mais là, maintenant, ils peuvent vraiment vous... Excusez-moi l'expression. Ils peuvent vraiment vous baiser sur toute la ligne, quoi. Quoi d'autre ? Alors, dans cet article, on repart un peu en arrière, parce qu'on repart... On nous reparle dans cet article du programme de Macron avant les élections présidentielles, et notamment de son livre « Révolution », où à l'intérieur de ce livre, il proposait justement de pas faire ce genre de choses. Enfin, il disait comme ça, on pourrait tout à fait considérer que le régime de contravention serait suffisant pour sanctionner ces comportements. C'est ce qu'il disait à une époque où il disait, voilà, on pouvait mettre une amende immédiate de 100 euros. C'est un peu dans cette ligne que le rapport d'information sur l'application d'une procédure d'amende forfaitaire au délit d'usage illicite de stupéfiants, tel qu'a été porté par les deux rapporteurs, donc Éric Pouyat des Républicains En Marche et Robin Reda des Républicains, qui préconisait donc de contraventionnaliser l'usage du cannabis par une amende de 4e ou de 5e classe, donc entre 150 et 200 euros. Et donc, c'est pas l'option qui est retenue par la garde des Sceaux. Et avec toujours le même argument crétin qu'on entend depuis je sais même plus combien de temps, mais j'ai presque l'impression qu'on entend cet argument pourri sur le cannabis depuis que le monde est monde, quoi. C'est-à-dire qu'elle a pas choisi cette option qui, selon elle, donc sur le plan symbolique, envoyait un message négatif et surtout aurait pu être perçu comme une étape vers la dépénalisation. Voilà. Donc surtout, faut pas qu'on nous prenne pour des laxistes. Donc finalement, 150-200 euros, c'est pas suffisant. Alors on va quand même mettre beaucoup plus, et puis on va pas faire en sorte que ça élimine toutes les autres poursuites, mais on va l'ajouter avec toutes les autres, comme ça on peut faire tout ce qu'on veut avec, mettre un PV, vous mettre en prison. Parce que faut surtout pas qu'on nous prenne pour des laxistes et qu'on pense qu'on veut dépénaliser. Voilà, en gros c'est ça. Hein.
Oui, et puis surtout, de toute manière c'est interdit. Pourquoi c'est interdit ? Parce que la loi de 70 l'a décidé. Mais sur quelle base et sur quelles études scientifiques ? Aucune, mais c'est interdit parce que
c'est la
en 70, ils l'ont décidé un 31 décembre 1970.
Où ils étaient 7.
Ouais, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Et personne ne veut revenir là-dessus en ayant peur de se faire traiter de laxiste. Voilà, donc...
Qu'est-ce qu'elle dit, Benbassa, là ? Elle réagit. Là.
Heureusement, Esther Benbassa réagit et regrette donc le maintien du tabou du cannabis. Pour elle, la légalisation contrôlée semble trop lointaine, mais on pouvait au moins aller vers la dépénalisation. Là, on va se retrouver avec une pénalisation à deux vitesses. Celle entre ceux qui pourront payer l'amende et ceux qui ne le pourront pas, et pour qui la prison pourra toujours être la sanction. Ça va même encore plus loin, je pense que... Elle ne comprend pas, en tout cas, ces petites mesures, c'est de la com', il faut rationaliser cette question. À cause de ce tabou, nous n'arrivons pas à régler les problèmes du contrôle de la production, de la qualité, du taux de THC, principale molécule active du cannabis, ni non plus celui du cannabis thérapeutique qui n'est toujours pas accessible en France, ajoute la sénatrice. Donc moi, je dirais qu'on ne connaît pas les taux des différents cannabinoïdes à l'intérieur de cette plante, et c'est bien dommage. Elle rajoute que la contraventionnalisation permettrait de faire économiser à l'État 380 millions d'euros. Mais par contre, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait une contraventionnalisation qu'ils font. Voilà, c'est quand même une amende forfaitaire délictuelle. Petite nuance. Donc il ne faut pas que ce soit une contraventionnalisation déguisée.
Voilà, en même temps, c'est quand même très... Enfin,
c'est la droite qui craint ça.
Mais, oui, oui.
Voilà.
Mais franchement, regarde, nous, on... vas-y, je te laisse finir.
J'allais trop loin. Donc, c'est vraiment, donc ça se surajoute aux autres. Et donc, toutes les autres techniques, c'est ce qu'on disait, c'est toutes les autres techniques d'enquête, telles que les gardes à vue, les fouilles au corps, les perquisitions nécessaires au démantèlement des réseaux. Donc ça, ça reste en place. C'est pour ça qu'on reste sur cette voie d'amende délictuelle forfaitaire. Voilà, donc pour droite, ils craignent une contraventionnalisation déguisée. Voilà, mais bon, c'est... Vas-y, je te laisse...
Nous, on s'intéresse au sujet depuis des années, on présente cette émission depuis des années, donc on est quand même un peu au fait de toutes ces choses-là, et on les commente, on les explique à l'antenne. Mais très, très sincèrement, je me demande qui va vraiment comprendre ce genre de réforme. Très honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ah ben, maintenant, on va prendre une amende », et qui se doutent même pas, justement, que cette contravention, qui visiblement n'en est pas une, ou plus ou moins, on ne sait pas bien, va se rajouter à d'autres peines qui existent déjà, en fait. Je pense que, encore une fois, c'est accentuer cette incompréhension qui y a dans l'esprit de beaucoup de citoyens et de citoyennes qui sont amateurs, amatrices de cannabis. Et voilà, ça rajoute de la confusion. Et c'est une super stratégie, finalement, pour choper les gens.
Ah oui, mais ça...
Et ça, je trouve ça vachement dangereux, en fait. Voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se dire, bon, bah maintenant, on va y avoir une amende, et puis, bon, on risque moins, alors qu'en fait, on risque encore plus, quoi. C'est-à-dire que...
Ouais, en fait, ça va surtout faciliter les orientations discriminantes ou discriminatoires ou racistes que permettait déjà cette loi. Et donc, tout ça est simplifié, surtout. Puisque c'est presque écrit, quoi. C'est...
Ouais. Alors, au niveau des mass médias, l'émission de Yann Barthès qui est diffusée tous les soirs à partir de 19h20, l'autre jour je suis tombé dessus, et il parlait de cette loi et des 300 euros. Et apparemment, ils ont interviewé des policiers qui eux-mêmes trouvent que la loi est mauvaise et qui disent mais ça va nous rajouter du travail en fait. Alors qu'en fait, cette réforme, elle est plutôt là pour faciliter la tâche procédurale de la police. Mais voilà, il y a déjà des policiers qui trouvent que finalement, ça va être encore plus de boulot. Donc on n'y comprend pas grand-chose, au final. Voilà, moi, je pense qu'on va passer à un autre sujet.
Ouais, je pense qu'on pourrait enchaîner peut-être avec le communiqué de presse du cirque.
Enchaînons.
Qui n'est pas tout à fait le même sujet, mais c'est toujours la loi,
la
répression, l'interprétation de la loi et comment la loi décide. Voilà, c'est ce qu'on disait. Pourquoi le cannabis est mauvais ? Parce que c'est dans le tableau des stupéfiants et parce que ça a été décidé comme ça en 1970. Et là, pour la sécurité routière, c'est tous les messages qui arrivent. C'est un peu l'inquisition, quoi. T'as fumé, donc c'est mauvais. T'as fumé il y a 4 jours, c'est pas grave, c'est mauvais. T'es responsable de tous les maux de la terre et voilà. Là, t'as dérapé. C'est la loi qui décide que c'est mauvais et c'est pas la science et c'est ça qui manque quoi. Il faudrait que la science puisse, les études puissent définir un seuil de à partir duquel on puisse.
Ouais. Bah, ce qui est surtout incroyable, c'est que en France, on a commandé l'une des études les plus abouties sur les conséquences de la consommation du cannabis au volant et c'est une étude qui fait référence dans le monde entier, sauf en France. C'est ça qui est vraiment incroyable. Je vais vous lire quand même le communiqué de presse donc, du cirque du 26 mars la semaine dernière. Sécurité routière et cannabis, un message inopérant. Donc c'est au sujet de ce spot de ce spot, comment dire, de diabolisation et de peur, en fait, hein, au sujet de la conduite automobile et de la consommation de cannabis. Donc, voilà. Alors, un cimetière, une famille, des amis éplorés autour d'un cercueil d'où s'échappe une longue traînée de fumée, le tout filmé au ralenti en un noir et blanc appuyé par des violons lugubres. Les volutes nous mènent sur les lieux d'un accident de voiture, tandis que la voix du défunt y va de son couplet en plein de remords et de contrition. C'est ainsi que la sécurité routière pense toucher les automobilistes cannabinophiles et d'insister sur son site en publiant l'éclairage du professeur Nicolas Simon, addictocrate de son état, et l'éminent spécialiste, entre guillemets, hein, de s'avancer sur un terrain qu'il ne semble pas vraiment maîtriser, assénant ses vérités par la seule interprétation des statistiques de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Aucune référence, par exemple, sur le fait que si l'on peut retrouver des traces de cannabis dans le sang d'un conducteur, cela n'implique pas qu'il soit sous son emprise. Le THC, et notamment le THC-COOH, hein, pouvant demeurer des semaines après usage. Pas plus qu'il ne dit que ces mêmes statistiques ne précisent pas si le conducteur impliqué est responsable ou non de l'accident. Comment dès lors s'attendre à ce que soit pris en compte la spécificité de l'ivresse cannabique qui, contrairement à celle de l'alcool, ne provoque pas de sentiment de surmoi. Le cannabinophile expérimenté ayant conscience de son état est mieux à même d'adapter sa conduite à celui-ci. Nous parlons ici de l'usage seul du cannabis. Mélangé à l'alcool, il en potentialise les effets, ce qui est là effectivement un danger. Et j'ajouterais, hein, qui est prouvé par la fameuse étude stupéfiant accident mortel de la circulation routière. Que l'on soit clair, la plupart des amateurs et amatrices de cannabis conduisent parfois juste après avoir fumé. Il en est fumant en conduisant même. Nul besoin d'avoir mené de hautes études pour constater que, statistiquement, toujours, hein, il et elle ne provoquent pas plus d'accidents que les autres. Nous pourrions même considérer que le cannabis est un réducteur de risque. Nombre d'automobilistes nerveux à la conduite à risque, hein, trouvent en effet en lui de quoi se calmer. Et là, j'ajouterai également entre parenthèses, qui a été démontré par une étude canadienne il y a une quinzaine d'années. Cette vérité, qui d'autres que des cannabinophiles peuvent la dire, il ne s'agit pas de sous-estimer ou de chercher à minimiser les dangers, mais bien à relativiser en dehors de tout discours anxiogène. Et c'est en cela que le message de la sécurité routière est complètement à côté de la plaque. Si ce spot sinistre avait pour vocation de sensibiliser les automobilistes cannabinophiles, bah c'est un échec, un de plus. La communication sur les drogues, au volant, à l'école ou ailleurs, ne semble décidément pas être le fort des autorités. À moins qu'il s'agisse, une fois encore, de stigmatiser cette frange de la population française préférant l'ivresse cannabique à tout autre. L'inéluctable légalisation devrait au contraire inciter les autorités à faire preuve de plus de pragmatisme à ce sujet, par exemple en menant de véritables études sur la conduite sous l'emprise de stupéfiants et en adoptant des règles à mesure des dangers potentiels que ceux-ci représentent. Cela éviterait de nombreux drames comme celui de la perte de son emploi, de l'interruption de ses études ou du rejet par sa famille après avoir été contrôlé positif et s'être vu retirer son permis de conduire. Le cirque reçoit régulièrement en nombre de témoignages de victimes de ce dispositif répressif arbitraire. À cette peine s'ajoute aussi le délit d'usage, bientôt fortement astreint par une amende forfaitaire. Le renforcement de la loi du 31-1970, observé depuis son adoption, n'en fait pas moins la France championne d'Europe de la consommation de cannabis. Un échec donc. Un dossier complet sur le cannabis au volant est disponible sur le site du Cirque Lyon. Une pétition également initiée récemment par l'association Normal France dénonçant les amendes forfaitaires à venir circule, à signer et à partager. Et voilà, on en profite à la fin de ce communiqué de presse pour vous renvoyer encore une fois vers le site change.org pour signer cette fameuse pétition. On en est quand même à plus de 15 000 signataires aujourd'hui, hein, ce qui est quand même vraiment important. Donc elle marche, cette pétition, elle marche vraiment bien, quoi. Et il faut continuer à la signer. Si ça continue, on va atteindre le million. Voilà. On va s'écouter un petit peu de musique maintenant et on revient tout de suite après.
Voilà, et puis sinon, juste ce qu'on peut rajouter aussi par rapport à ça, c'est qu'on oublie aussi de. Et le gouvernement. gouvernement obligé de regarder ce qui se passe dans les pays, dans les États où ça a été légalisé aux États-Unis où on
voit rien n'a été légalisé nulle part. Tu comprends pas. Ils sont comme ça. Ils voient même pas ce qui se passe de l'autre côté du périphérique, en dehors de la, de Paris intramuros. Comment veux-tu qu'ils sachent ce qui se passe en Uruguay, en Californie, ou dans le reste du monde? Voilà, sur le cannabis, ils sont comme ça. Voilà.
Voilà, mais non.
Des œillères.
Et même en France, puisque voilà, c'est les deux choses que je voulais rappeler, c'est que l'étude française, tout le monde.
Ouais, mais il n'y a pas d'étude française, qu'est-ce que tu racontes ?
Tout le monde la regarde, tout le monde l'étudie.
Où ça ? Mais non !
Ça fait les Français et on ne regarde pas ça.
Non, le chef et le maître de la science du cannabis, c'est Jean Constantin, voilà. Et le professeur Debré, de l'Académie de médecine, qui tous les deux radotent depuis au moins 40 ans. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais il n'y a pas d'étude. Allez, à tout de suite, musique.
avec le morceau qui s'appelle Bros. Retour au direct.
Voilà, avant de reprendre l'antenne, on discutait, on reparlait de cette fameuse étude stupéfiant accident mortel de la circulation routière qui a été décidée. Enfin, c'était le gouvernement Jospin à l'époque qui avait décidé de lancer cette étude et qui a été publiée de manière quasi définitive en 2005, puis complètement définitive en 2011. Voilà, on reparlait de cette étude qui fait référence donc dans le monde entier et qui ne fait pas référence en France, par contre.
Voilà, c'est qui a parté sur presque une dizaine d'années.
Non, pas une dizaine d'années, c'est pas tant que ça. Par contre, c'était 10 000 accidents de la circulation et au final, n'avait été retenu que 6 600 cas d'accidents. Voilà, donc toutes ces infos, et notamment l'étude, vous pouvez la consulter, ou en tout cas vous documenter à ce sujet, sur le site internet du Cirque Lyon, qui avait fait un travail un peu de décryptage il y a quelques années à ce sujet, et avec des résultats et des explications qui restent tout à fait valables aujourd'hui.
Voilà, donc qui démontre qu'il y a un seuil de dangerosité, voilà, il faudrait le trouver, il faudrait faire une loi, à peu près comme pour l'alcool, avec...
Un seuil.
Et non pas sur le COOH qui reste plusieurs jours, mais sur le
THC.
Le THC.
Qui reste 6 heures maximum.
Le temps de l'action. Et c'est un taux de c'est le taux là-dessus qu'on pourrait à la limite pénaliser. Le tout, c'est de trouver le bon taux. Et, par contre, évidemment, ces taux pourraient être vraiment augmentés en cas d'alcool plus cannabis, puisque là, on sait que les effets peuvent être terribles dans certains cas. Voilà.
Bon, maintenant, on va s'intéresser à des choses un peu, enfin une chose en tout cas un peu plus intéressante. On va parler un peu de science là pour le coup, d'un article qui nous vient de sciencepost.fr. Qui nous parle en fait de l'utilisation du cannabis qui protégerait le foie des ravages de l'alcool.
Alors, rappelons, il commence comme ça. Hein. Premièrement, nous ne vous incitons pas à fumer du cannabis et deuxièmement, encore moins à enchaîner les verres d'alcool après avoir fumé un joint.
Oui, on soit bien d'accord. Ouais.
Cependant, plusieurs études indiquent que le cannabis aurait des effets positifs sur le foie.
Alors,
premières études, donc il y a l'université de Massachusetts,
Lowell,
voilà, et d'une université du Canada qui
du Québec, l'université de Québec à Montréal, ouais, l'UQAM,
voilà, qui indique que les buveurs d'alcool fumant également de l'herbe ont sensiblement moins de chances de développer des maladies du foie. Voilà, donc parmi les maladies évoquées, il y a le carcinome hépatocellulaire, la cirrhose, l'hépatite ou encore la stéatose et certains cancers du foie. Donc les recherches estiment que les personnes fumant du cannabis sont plus protégées contre les maladies alcooliques du foie. Et les chiffres annoncés sont étonnants. Les gros buveurs ne fumant pas d'herbe ont 90% de chances de développer une maladie du foie. Contre seulement 8% chez les gros fumeurs, les gros buveurs fumant également de l'herbe.
Et alors là, cerise sur le gâteau.
Dans le cas d'une dépendance au cannabis, ce chiffre tomberait même à 1,36%.
Donc, qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire ?
Alors, les propriétés anti-inflammatoires de l'herbe sont connues depuis quelques années. Il faut savoir que notre corps possède un système endocannabinoïde agissant sur l'appétit, la fonction immunitaire et la mémoire. Ces deux récepteurs endocannabinoïdes sont plus connus sous les noms de CB1, C1-1, je ne sais pas comment on dit, CB-1 ou CB1, et CB2. Voilà. Et donc le CB1 et le CB2 sont présents dans tout le corps, dont le foie, où leur rôle influence l'apparition des maladies. Alors, a priori, le CB1 endommage le foie, mais le CB2 semble au contraire le protéger. Donc, les chercheurs estiment qu'il faudrait un équilibre entre l'agonisme CB1 et CB2, à savoir adapter sa consommation afin de conserver que les bienfaits du cannabis pour le foie. Voilà, mais alors pour eux, l'équilibre n'est pas encore connu. Il ne faut pas non plus en tirer de conclusions hâtives, car il s'agit d'une étude de corrélation basée sur la population. Voilà. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que ça semble quand même confirmer la conclusion d'une précédente étude menée à l'école de médecine à l'université de Stanford cette fois. et qui a été publié en octobre 2017. Donc les chercheurs avaient examiné 8200 dossiers médicaux et ont constaté que la plus faible prévalence de la stéatose hépatique non alcoolique a été observée chez les gros fumeurs de cannabis. Voilà, donc...
J'en viens un peu à mes questions. Est-ce que du coup on peut conseiller à des gros buveurs de consommer un peu de cannabis pour éviter des cirrhoses ?
Ah, c'est possible.
Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on semble comprendre en lisant à travers les lignes, entre les lignes de cet article. Mais ce que nous ne pouvons absolument pas conseiller, bien évidemment. Voilà.
On va s'attaquer à
ce gros article de Mediapart.
Ouais, très rapide, même s'il est très gros. Donc, c'est vrai qu'il...
Un article du 28 mars dernier de Pascal Pascariello qui parle de trois personnes, trois profils, trois parcours en fait, de trois jeunes marseillais qui racontent leur parcours. Je vous lis les trois premières phrases qui sont intéressantes. Je trouve, une fois recruté dans un réseau de drogue, difficile d'en démissionner. La machine judiciaire se déclenche, la prison ouvre grande ses portes et à la sortie, le trafic réembauche. Comment éviter cet engrenage ? Trois jeunes Marseillais racontent leur parcours.
Voilà, alors le premier, c'est Mohamed, 25 ans, un point de vente de drogue, ne cesse pas avec les arrestations. Donc lui, il a reçu, il avait d'abord quand même à 21, titulaire d'un bac et d'un BTS de technico-commercial, il accumule les missions d'intérim dans le bâtiment, dans la sécurité. Voilà, il s'accroche, il essaye de bosser... il connaît bien quand même, puisqu'il a grandi dans les quartiers nord. Donc, en bas chez lui, il a vu les gens qui restaient, qui tenaient les murs et qui se faisaient. Ils arrivaient même à 13 ans à se faire 50 euros, ce que son père gagne à 50 ans. Donc, il est plus facile de devenir dealer d'électricien, il dit. C'est difficile quand on est de ce milieu, on connaît quoi. Et donc il y a 22 ans, donc il y a à peu près 3-4 ans, sa vie bascule, sa mère décède. Et donc il commence à se débrouiller tout seul, à avoir son propre appartement, des périodes de chômage évidemment, problème d'argent, il s'en sort mal. Et puis là il y a un de ses copains d'enfance qui lui propose de venir contrôler un point de vente. Et comme il n'avait rien d'autre à faire et qu'il était un peu pris, voilà, il y est allé. Et en quelques temps, il s'est refait, il a grimpé, il a appris à faire l'inventaire. Il devait gérer des stocks de 40 à 50 kilos de drogue. Il gagnait entre 4000 et 5000 euros par mois. Donc vraiment en haut de la pyramide, parce qu'à ce point-là, ça commence à devenir. C'est comme chez McDo, on est presque dans une petite succursale là.
Oui, bien sûr. Ouais.
Pour donner un petit peu à l'échelle de... Tout le monde ne gagne pas ça. En général, c'est plutôt 50 euros, comme on l'apprend dans l'article, 50 euros le guetteur et 150-200 euros pour le vendeur. Donc, malheureusement, il est arrêté par la police. En tout cas, il voulait... continuer, mais bon, il n'a pas pu, donc il s'est fait arrêter. Il a passé seulement 5 jours en prison, il a été libéré sous contrôle judiciaire, avec notamment une interdiction de territoire, en l'occurrence Marseille. Et après, c'est son réseau qui l'a bien pris en charge, hein, quand même, puisqu'il était bien placé, comme on dit. Il était un peu comme l'école blanc à la justice...
Oui, c'est intéressant ce passage. Oui.
J'ai les armes pour y faire face, à la fois parce que je suis arrivé tardivement dans cette activité et que j'étais assez mature pour ne pas être en guerre ouverte avec la police ou la justice. Ma réinsertion a été possible, non pas grâce aux aides de l'État qui n'engagent pas les moyens dans cette voie. J'ai pu me réinsérer grâce au soutien du réseau de drogue qui m'a trouvé un appartement, qui m'a aidé au début. Aujourd'hui, je me débrouille bien en travaillant, je gagne 1200 euros par mois. C'est juste, mais je m'en sors, j'ai changé de cadre, je vois d'autres personnes.
Voilà. Donc là, ce que tu es en train de lire, c'est qu'en fait, la réinsertion de l'ancien dealer, elle est assurée par des membres réseau. Du réseau de dealers, en
tout
fait.
À fait. A priori, voilà. Il est quand même assez haut dans...
Dans la hiérarchie des acteurs, oui, effectivement.
Voilà, parce que là il supervise, il travaille 3 jours par semaine et il se fait 5000 euros, quoi. Il est bien au-dessus, il est super vendeur, quoi. C'est le chef de la petite succursale,
quoi. Voilà, c'est le chef de rayon, quoi, en fait.
On va voir même un petit peu au-dessus.
Chef de magasin.
Ouais. Ouais. Voilà, un petit peu. Le deuxième, c'est Benjamin, 21 ans. Donc lui, il venait voir sa grand-mère, il traînait en bas de la tour et il y en a un qui lui a dit à force, mon Dieu, de rester là gratuitement, tu peux le faire pour nous et en étant payé, quoi. Et donc il s'est mis à faire guetteur, il a commencé à toucher 50, puis 300 euros. Voilà, donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc lui, il est... Donc pardon, j'avais pas fini, c'est ce qu'ils font exactement. Mohamed, ce qui est intéressant, c'est qu'il est... Maintenant, sa peine a été aménagée, il a toujours un bracelet électronique, quand même. Donc au moins, c'est pas mal. Et sinon, l'autre Benjamin, donc lui, il est emprisonné, mais il sort de la prison pour pouvoir se rendre à son stage ou en tout cas à sa formation, pour laquelle en plus il reçoit un peu d'argent, donc il peut avoir un petit peu le minimum pour survivre en prison, parce que la rate ça coûte cher si je ne me trompe pas. Et en plus, ça lui amène une formation, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Donc moi, lui, il raconte, à 12 ans, il a commencé... Voilà,
tu parles de Benjamin, là, maintenant?
De Benjamin, oui, tout à fait.
Ce sont des prénoms d'emprunt, vous rassurez.
Oui, mais là, j'en parle déjà depuis un moment.
Non, tu parlais de Mohamed, tu avais fait un petit retour.
Oui, j'ai fait un petit retour.
Mais donc là, maintenant, on repart sur Benjamin.
Voilà,
okay,
donc Mohamed, c'était juste le bracelet électronique, et lui, Benjamin, c'est peine de prison aménagée. C'est-à-dire qu'il dort à la prison et qu'il sort pour aller à son stage. Voilà où il en est. Mmh, sinon, après, il raconte sa vie, et c'est là que... qu'on apprend beaucoup de choses sur les prix. Voilà, il était guetteur à 12 ans, il a commencé à être guetteur à 40 euros la demi-journée. Vendeur de cannabis ou de la cocaïne à 14 ans pour 150-200 euros par jour. Voilà, il a grimpé les échelons petit à petit. Voilà, il a fait un peu ses armes. Au début, il allait un peu à l'école, puis à la fin, il n'y allait plus. Bon, sa famille mettait des œillères parce qu'il arrivait à payer quand même les notes d'électricité, de quoi manger. Donc c'est quand même intéressant. Bon, après, il raconte un peu sa vie, c'est assez difficile. Bon, il raconte même qu'un jour, il s'est fait tabasser par le réseau qu'il avait amené dans la forêt. Alors ça, c'est parce qu'en fait, on l'apprend à la fin de l'article, il avait essayé d'arnaquer un peu ses
collègues.
Ses collègues, et donc il l'avait appris, donc c'est pour ça qu'il l'avait récupéré et un petit peu tabassé. Sinon, donc là, il continue à essayer de s'en sortir. Sinon, il dit des choses intéressantes. Il rappelle que la drogue, ça touche tout le monde, de 7 à 77 ans. On voit de tout comme client. On ne comprend pas pourquoi les vendeurs comme moi, on prend 2 ans de prison, voire plus, alors qu'on n'oblige personne à venir acheter ce que l'on vend.
Tout à fait.
Voilà ce qui rappelle. Bon. Après, qu'est-ce qu'on peut dire en plus sur ce Benjamin? Il n'a pas eu de chance, il a été suivi même à partir de 15-16 ans, il a été arrêté. Il a été suivi par la protection de la justice, donc il rappelle que la prison, c'est un peu l'école du crime. Mais ça, on le sait, hein, tu rentres dealer, tu ressors braqueur. Mais lui, il essaye de préparer sa sortie, c'est pour ça qu'il fait ses petits stages à 300 euros. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur lui. Et pour finir très vite et sur le dernier, le troisième larron de cette histoire, qu'ils appellent Kevin, qui a 17 ans. Donc il est toujours très jeune.
C'est le mineur de l'article.
Voilà, il est dans un centre éducatif fermé. Il a l'impression de perdre son temps. Voilà, parce qu'il fumait trop, il a été obligé de se mettre à vendre pour payer ses trucs. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Kevin? Pas grand-chose. Hein. Il s'y est mis très tôt. Et surtout, le problème, c'est que dans ces centres éducatifs fermés, il apprend un peu rien du tout. Et c'est ça qui a l'air d'être le pire.
Oui, alors, je pense que c'est intentionnel, mais ça serait bien si Mediapart pouvait refaire le même article avec 3 individus qui sont issus de milieux beaucoup plus favorisés. Et on verrait peut-être justement qu'il y a une différence dans, dans le parcours de ces personnes. Ça serait bien aussi qu'ils traitent du cas, par exemple, de la consommation d'une femme, parce que là, on a trois hommes. Voilà, enfin, tout ça, ça compte, hein, ces éléments-là. Les origines sociales, le genre, la place dans le groupe de vendeurs, par exemple. Donc voilà, en tout cas, bon, c'est pas une critique, hein, que je formule à l'adresse de Mediapart, mais en tout cas, ce travail qui est assez sociologique, en fait, et qui est très intéressant, ben, explique beaucoup de choses. Et ça serait bien que Mediapart continue et qu'il fait des bons papiers et des bons reportages sur la question. Voilà. Au début de l'émission, on parlait de ce procès de la prohibition. C'était vraiment une super idée. Et en tout cas, il n'y a pas énormément d'articles comme ça qui sont publiés dans la presse. Il y a Michel Henry dans Libération qui a publié longtemps des très bons papiers. On le voit moins depuis quelques années, là. Mais bon, ça reste quand même intéressant. Donc on vous renvoie vers Mediapart. Voilà, si vous souhaitez vous abonner. On a réussi à avoir l'article en accès libre. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Voilà. Eh bien, Cannabis Circus, c'est fini pour ce soir.
Voilà, juste pour rappeler que ben, il va y avoir le 18 juin, le 17 juin. Un peu avant, il va y avoir le 11 mai.
Le 12.
Le 12 mai.
La marche mondiale du cannabis à Lyon. Et à Paris, le 12 mai, voilà. Le 5 mai dans d'autres villes de France.
Tout à fait, et aussi le
420, 20 avril. Le 20 avril.
Voilà, avec a priori un truc qui se préparerait peut-être Place Bellecour, on ne sait pas trop, suivez un petit peu l'actu, voilà.
Voilà.
On va essayer de savoir ce qui se passe là-bas, donc le 20 avril
à 16h20.
À 16h20, voilà.
On verra, ouais, parce que bon, pour l'instant... Bon. Voilà, donc le Cannabis Circus est fini. Cannabis Circus qui vous était présenté par le Cirque Lyon. Vous pouvez joindre par téléphone au 06 11 53 10 07. Vous pouvez nous contacter même directement sur notre page Facebook, Cirque Lyon sur Facebook ou Cirque sur Facebook. Et également visiter notre site internet www.cirque-lyon.net et cirque-lyon@no-log.org par email. Voilà, sinon 06 11 53 10 07, c'est la fin de Cannabis Circus. À la semaine prochaine maintenant, c'est Chasseurs de Son, au revoir.